Alléluia, loué soit Dieu. On l'a déjà fait là par nos chants, mais du coup, maintenant, je voudrais qu'on le fasse aussi par cette parole qui va être annoncée. Et puis, on va prier. Et après, je vous partagerai ce que j'ai préparé. Seigneur Jésus, je veux te rendre gloire et te remercier. Merci, Seigneur, parce qu'on sent la puissance de ton esprit agir en nous, Seigneur. Et je te remercie vraiment de cet esprit dont tu nous as revêtus. Merci parce que ta grâce repose sur nous, Seigneur Jésus. Et merci pour le don de ta vie. Que, Seigneur, tes mots soient dans ma bouche ce matin aussi, Seigneur Jésus, et que tu puisses être avec moi. Et merci que les paroles qui vont être entendues puissent être reçues aussi dans les cœurs, Seigneur. Amen. Alors, comme le dit Luc au chapitre 6, verset 45, c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Alors, c'est donc ce que j'avais sur le cœur et ce que je peux vivre en ce moment avec le Seigneur que je vais vous partager ce matin. Et j'espère que ce partage pourra vous être utile à vous, comme il l'a été à moi. Donc déjà, dans un premier temps, pour vous illustrer ce que j'avais sur le cœur, eh bien j'ai ramené un seau. Alors je vais demander à Théo de bien vouloir s'avancer, s'il te plaît. Alors, ce seau... C'est un seau de bâtiment, mais c'est un seau. Ce seau représente mon cœur et il peut représenter votre cœur aussi ce matin. Donc tu le tiens comme ça bien, loin, bien devant toi, comme ça tout le monde va bien le voir, bien haut. Voilà. Et en fait, à chaque fois que dans la vie, on vit quelque chose de difficile, quand on est triste, quand on est seul, quand on se sent en danger... Quand on a l'esprit troublé, petit à petit, le cœur s'alourdit et on a de plus en plus de mal à le porter. Merci Théo. J'aurai besoin de toi après, mais tu peux aller te rasseoir. Donc, le poids de ce que l'on peut porter dans notre cœur, c'est un peu symbolisé ici par les briques. Et donc du coup là, le seau est très lourd et donc petit à petit, à chaque fois, les choses s'accumulent et notre cœur est de plus en plus lourd. Et du coup, on arrive de moins en moins à le porter. Ésaïe 35, versets 3 et 4 nous dit « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus. Avez-vous eu déjà le cœur lourd, l'esprit troublé ou encore l'âme triste et découragée ? C'est parfois difficile de l'accepter, cependant on passe tous par ces moments. Et je dirais même plus que parfois au trouble vient s'ajouter le poids de la culpabilité. » Parce qu'on se dit que c'est pas normal de ressentir ce sentiment. On est troublé, on est tracassé, etc. Et on se dit, mais mince, mais comment expliquer ces choses? Comment expliquer que ça va pas? Pourtant, j'ai tout pour être heureux. On est dans un pays où est-ce qu'on est en paix, etc. On a une famille, tout ça. On a plein de choses qui nous rendent heureux. Mais il y a des fois, notre cœur est lourd, il est triste, il est abattu. Bien plus encore, des fois, je me dis, mais je connais le Seigneur. Je connais la grâce du Seigneur. Je connais ses promesses. Alors, qu'est-ce qui fait que ça va pas? Eh bien, je ne peux pas expliquer les sentiments qui m'envahissent parfois, qui envahissent mon cœur. Et au plus profond de moi, il y a des choses que je ne peux pas expliquer. Mais je constate des fois que le trouble s'installe malgré tout. Et je vois bien que du coup, il y a quelque chose qui cloche. Dernièrement, on m'a dit que je manquais d'assurance. Ça m'intriste un peu, mais en même temps, je dois bien reconnaître que j'ai perdu en assurance. Et ce manque d'assurance, je me suis déjà posé la question justement parce que, en fait, c'est ironique parce que les gens me voient souvent comme quelqu'un d'assuré, quelqu'un qui est sûr de lui. Et le fait d'avoir manqué d'assurance, je me suis posé la question de savoir si, est-ce que c'est parce que maintenant que je connais le Seigneur, du coup, j'ai de moins en moins d'assurance, etc. Je me suis peut-être trop posé de questions. Et je me suis dit, la Bible, pourtant, elle nous donne un esprit de force et de sagesse et non pas un esprit de timidité, comme nous le dit 2 Timothée 1,7. Alors, j'ai beaucoup réfléchi et puis, je pense avoir trouvé une partie de la réponse de ce manque d'assurance. Bien souvent, quand est-ce qu'on manque d'assurance? On manque d'assurance dans les choses qu'on ne connaît pas, dans les choses qu'on ne maîtrise pas. Le manque d'assurance, lui, il vient quand on commence à douter, à avoir peur, ou quand on est face à quelque chose d'inconnu. Et je vais prendre deux exemples dans la Bible où justement on nous parle du trouble qui s'installe. Et donc, le trouble, premièrement, il peut s'installer lorsque viennent s'installer en nous des idées fausses. Acte 15 et au verset 24, Nous avons appris que des hommes partis de chez nous, mais sans aucun ordre de notre part, vous ont troublé par leur discours, et vous ont ébranlé en vous disant de vous faire circoncire et de respecter la loi. Donc premièrement, les idées fausses, elles viennent nous troubler. Et ça arrive souvent dans la vie. C'est-à-dire qu'on pense à quelque chose, on croit savoir quelque chose, on croit connaître quelque chose, et puis, hop, il y a un événement, quelque chose qui vient troubler notre esprit et qui vient remettre en cause ce que l'on croit. Deuxièmement, le trouble survient quand nous laissons entrer des idoles dans nos vies. Acte 19, versets 23 à 32. À cette époque, il se produisit un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. En effet, un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait un gain considérable aux artisans. Il les rassembla avec ceux qui exerçaient une activité similaire et dit « Vous savez que notre prospérité dépend de cette industrie. Or, vous voyez et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une grande foule en disant que les dieux fabriqués par la main de l'homme ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de discréditer notre activité, mais aussi de réduire à néant l'importance du temple de la grande déesse Artémis et même de dépouiller de sa majesté celle que toute l'Asie et le monde entier vénèrent. » À ces mots, ils furent remplis de colère et se mirent à crier « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Toute la ville fut dans l'agitation. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre en entraînant avec eux Gaius et Aristarque, des Macédoniens compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples en empêchèrent, et même quelques asiarques qui étaient ses amis envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'inviter à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient une chose, les autres une autre, car la confusion régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Donc deuxièmement, et je vais reprendre les mots qu'on a entendus dans ce passage, le trouble survient quand quelque chose nous détourne de ce que nous croyons, et quand elle réduit à néant, là c'est parce que du coup il utilise ça pour l'idole, il dit qu'en fait en gros, Paul, en faisant ce qu'il fait, c'est ce que ça produit pour leur idole, c'est-à-dire que ça réduit à néant l'importance de l'idole d'Artémis, et donc ça dépouille la majesté de cette idole. Et donc en fait en gros, indirectement, si on fait l'inverse, dans nos vies, les idoles c'est ce qu'elles créent en nous. Elles nous détournent de ce que nous croyons, et elles réduisent à néant l'importance de Dieu, elles nous dépouillent de sa majesté. Et ça crée en nous la confusion, donc le trouble. Dans le cadre de mon travail, j'ai reçu un homme qui propose des formations autour de la réflexologie, parce que ça c'est beaucoup à la mode en ce moment, réflexologie, sophrologie, tout ça, etc. Et il y a une phrase dans ce qu'il m'a dit qui m'a vraiment marqué. Déjà, je sentais que quand je discutais avec lui, il fallait que je pèse mes mots parce qu'en fait, il étudiait ce que j'étais en train de dire. Mais même lui, il me l'a dit dans notre entretien, il m'a dit « Attention à ce que vous dites parce que j'analyse ». Et donc du coup, lors de son échange, il m'a dit, en fait, on fait ces formations pour poser un questionnement, pour susciter un questionnement chez les gens, faire douter dans les croyances qu'ils peuvent avoir. Et quand il parlait de croyances, moi tout de suite, chrétien, hop, je faisais un peu rebondi, je lui ai dit non mais moi je suis assuré, vous inquiétez pas, etc. Enfin bref, mais j'ai laissé sous-entendre que j'étais croyant. Mais du coup, il m'a dit non mais je parle pas forcément de religion, je parle de toutes ces idées préconçues que l'on peut avoir, tout ce que l'on tient pour vrai. Mais indirectement, ça fait partie aussi de ce que l'on croit en tant que chrétien, quoi. Et donc le fait de douter, d'après lui, ça permet d'avancer et de déconstruire certaines croyances pour en replacer d'autres, etc. Et donc, ça m'a fait penser à ça, un peu à la confusion que ça peut causer justement quand on commence à se poser des doutes et des questions sur ce que l'on croit pour vrai. Du coup, on déconstruit des croyances, mais on va y apporter des nouvelles choses. Donc en fait, on va établir une nouvelle croyance. Et je crois qu'il est important de se poser des questions. Moi, je me pose beaucoup de questions. Et c'est bien parce que ça peut mener à une réflexion, ça peut nous faire grandir, ça peut nous faire progresser, ça peut nous faire comprendre des choses. Mais j'ai quand même eu malgré tout une méfiance vis-à-vis de son discours parce qu'en fait il y a ce passage de la Bible à quoi ça m'a fait penser, ça m'a fait penser à la tactique de Satan, vous savez, avec Adam et Ève à la chute. Satan dit à Adam et Ève, il dit « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Et donc du coup il pose le doute, il suscite le questionnement pour que du coup on se remette en question et que du coup on se dise « Oui mais alors ce qu'on croit, est-ce que du coup... » Et donc du coup, se poser des questions, oui, pour grandir, pour méditer la parole, pour la comprendre davantage, etc. et tout aussi. Mais malgré tout, il faut faire attention parce que dans le monde, il y a aussi justement beaucoup de courants qui vont essayer de nous faire réfléchir et de détricoter ce que l'on croit, etc. afin de nous implanter des nouvelles choses. Et donc, c'est là qu'il faut être méfiant. Est-il donc nécessaire de toujours remettre en question ce que l'on croit ? C'est un peu en partie ce qui me peine dans mon cheminement avec le Seigneur parce que je pense que j'ai vécu plein de choses avec Dieu. J'ai vu les progrès qu'il a opérés dans ma vie. J'ai vu ce qu'il était capable de m'apporter. Et ça me désole toujours, en fait. C'est ça qui me chagrine le plus quand je fais des pas en arrière. C'est que je connais, j'ai connaissance des choses, mais ça ne m'empêche pas de tomber. Et ça me fait penser à ce passage dans l'Ancien Testament. Et donc, du coup, je me disais aussi, j'essaie de faire de mon mieux, mais qu'est-ce qui se passe quand on n'y arrive pas ? Est-ce que vous, ça vous arrive aussi de penser, d'avoir à votre esprit que vous êtes nul, vous n'y arrivez pas et vous n'êtes pas des bons chrétiens ? Eh bien, des fois, moi, ça s'installe dans ma vie et c'est ça qui me désole aussi parce qu'en fait, avec tout ce que j'ai déjà pu faire avec le Seigneur, les progrès, etc., quand je le connais, tout ça et tout aussi, ça me désole de... Mais voilà, donc j'ai l'impression de vivre ce que les Israélites ont vécu à un moment. Donc, vous savez, quand les Israélites ont été délivrés de l'Égypte, en fait, moi, je lis des fois régulièrement ces passages et les Israélites, ils ont vu à plusieurs reprises la main extraordinaire de Dieu dans l'intervention de ce qu'il a fait, mais ça ne les empêche pas de continuer de se plaindre, de pécher et même de se faire un veau d'or pendant que Moïse est sur la montagne en train de récupérer les 10 commandements. Alors quand je lis ce passage, moi je me dis toujours, mais les Israélites, vous abusez quand même. Franchement, vous venez vous faire sortir de l'Égypte, Dieu vous a délivré, il a opéré des miracles, etc. Et vous êtes en train de vous plaindre dans le désert de ce qui ne va pas, et vous êtes en train de vous faire un veau d'or, etc. Et quand je réfléchis, des fois je me dis, mince, mais finalement, est-ce que moi, je n'adopte pas la même attitude ? Est-ce que, même au-delà de ce que je reconnais à Dieu, des grandes choses qu'il a fait dans ma vie, est-ce que pas trop souvent j'oublie ce qu'il a fait justement et je fais comme les Israélites, je me plains ou le trouble s'installe en moi ou je continue de pécher et du coup je fais des pas en arrière, je tombe et je succombe à nouveau. Galates 1 verset 7 nous dit « Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. » Notre cœur est troublé quand quelque chose ou quelqu'un vient déformer l'évangile de Christ. Quand nous commençons à douter, quand nos sentiments sont bouleversés et que nous arrêtons de remettre nos soucis entre les mains de Dieu, car lui seul est capable d'apporter la solution à notre problème. Quand on remet en cause notre foi, quand nous remettons en cause qui nous sommes, c'est-à-dire des enfants de Dieu, et quand on fausse en fait l'évangile qu'on a reçu. Mais malgré tout, je veux rendre gloire à Dieu parce que, comme la semaine dernière nous partageait Étienne, il nous disait que Dieu nous donne une stabilité. Et je suis vraiment content pour ça aussi parce qu'au-delà du trouble, Dieu donne une stabilité. Et cette stabilité, elle nous permet, au-delà des difficultés, de ne pas être ébranlés. Le Seigneur, avec les difficultés, nous a donné le moyen d'en sortir. Et parfois même, il nous donne ces difficultés pour qu'on puisse en sortir encore plus fort et mettre à l'épreuve notre foi. Le psaume 55, verset 23 nous dit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais trébucher le juste. » Donc Dieu nous offre cette stabilité. Et en lisant là, en faisant ce petit partage, j'ai étudié la question du trouble et je me suis rendu compte qu'en fait que Jésus lui-même a vécu le trouble. Il a été troublé. On le lit dans Jean 12 au verset 27. Maintenant mon âme est, c'est Jésus qui parle. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Donc Jésus a ressenti ce sentiment et il a été lui-même troublé de ce qu'il allait faire. Et pourtant il savait qu'il était venu pour faire ça. Et nous, c'est un petit peu pareil aussi, justement, on est dans le monde, on est des pécheurs, etc., et on sait pourquoi on est ici, parce que du coup, on veut rendre gloire à Dieu au travers de notre vie, et malgré tout, on va continuer d'avoir des difficultés et d'être troublé. Être troublé, c'est pas quelque chose d'anormal, en fait, au final. Mais Jésus ne veut pas qu'on soit troublé, mais il veut que, face à ce trouble, on cherche la bonne solution. Matthieu 26, au verset 38, nous dit... Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir, restez ici, éveillez avec moi. » Dans ce passage où Jésus subit l'angoisse juste avant sa crucifixion, il nous montre la solution face au trouble. Il nous demande de rester éveillés. Et donc j'ai aussi ce verset qui me vient à la tête aussi, où justement il prend Pierre, Jacques et Jean là, et il va prier sur le mont, et du coup il s'endorme à plusieurs reprises. Et Étienne, il nous partageait aussi que du coup, ces 10 chrétiennes, elles vont au devant du roi, mais elles s'endorment. Et du coup, sur les 10, il y en a 5 qui ont été prévoyantes, 5 qui n'ont pas été prévoyantes. Et donc, c'est ce qui nous parle de rester toujours en éveil, d'être éveillé, de se maintenir dans un état où est-ce qu'on est capable d'un jugement qui soit cohérent et qui puisse nous faire avancer. On a vraiment besoin de crier ce mot qu'on a chanté ce matin. Hosanna, viens Seigneur, viens. Et nous sommes appelés à nous confier en Dieu quoi qu'il arrive, car tous ceux qui veulent vivre pour le Seigneur seront persécutés, la Bible nous dit. Donc que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi, nous dit Jean 14, verset 1. Le trouble, on peut constater que ça a des effets néfastes dans notre vie, ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de nous réjouir et de passer, et ça nous fait passer à côté des bénédictions du Seigneur, et ça nous empêche de chanter comme ce matin des chants, des Alléluia, et ça nous empêche de louer pleinement Dieu. Alors je vais demander à Théo de revenir, parce qu'on va encore illustrer quelque chose. Dans ces moments, c'est important de garder la foi justement et de tout remettre dans les mains du Seigneur. Tout remettre dans les mains du Seigneur et aussi pouvoir se confier dans d'autres personnes. Théo, est-ce que tu peux lever le seau? Donc ce seau, vas-y, essaye de le lever devant toi comme ça, bien lourd. Ce seau, il est hyper lourd pour Théo, mais si on s'y met à deux, vas-y Théo. Si on s'y met à deux, on est capable de le porter. Merci Théo. Donc oui, le trouble arrive, le trouble survient, notre cœur est lourd, mais c'est là qu'il faut aussi justement trouver des solutions au trouble. Il ne faut pas rester troublé, et la parole de Dieu, elle nous demande de nous confier en l'Éternel et aussi de déposer aux pieds de Jésus nos fardeaux. Et ça, on peut le faire déjà en priant, mais on peut le faire aussi en se réunissant avec les frères et sœurs, en venant à l'église, en demandant à un frère, une sœur, quelqu'un de notre famille, quelqu'un de chrétien, de prier pour le trouble qu'on a, de confesser nos fardeaux, nos peines, nos difficultés, afin que les autres puissent le porter avec nous. Parce que si l'un tombe, l'autre le relève, la Bible nous dit. Et donc si on a des questionnements, des troubles, eh bien, allez méditer la parole de Dieu, allez chercher les réponses là où est-ce que vous pouvez les trouver. Des fois, on a tendance à faire autre chose, mais il n'y a pas d'autre solution que d'aller les chercher et les puiser dans la parole de Dieu. Je vais peut-être devancer, je ne sais plus où j'en suis, etc. Mais en tout cas, je peux vous dire que moi, j'étais troublé dernièrement dans mon cœur, et ça m'arrive, c'est comme ça. On peut avoir des moments où on est troublé. Mais la solution à ces troubles, elle vient quand je me mets à lire et à étudier la parole de Dieu. Et c'est mon bénéfice, entre guillemets, c'est pour ça aussi que je disais à Jean quand j'ai partagé avec lui la dernière fois. Il y a parfois, je me pose la question de des fois continuer. Parce que du coup, je me sens un petit peu illégitime dans le sens où qu'est-ce qui justifie le fait que je puisse être devant vous ce matin? Moi-même, je suis un pécheur, moi-même, je continue de pécher, et des fois, ça me pèse, ça trouble mon cœur. Et le fait de vous apporter quelque chose, alors que moi-même, je ne suis parfois pas digne, ça m'empêche. Mais c'est une stabilité, c'est ce qui fait que du coup, je m'accroche au Seigneur. C'est-à-dire que quand je suis devant vous, ça me fait aller puiser dans la parole de Dieu ce dont j'ai besoin et ce dont j'espère pouvoir vous partager, ce dont le Seigneur veut vous partager aussi. Et du coup, c'est un travail, c'est un bénéfice réciproque. C'est-à-dire que ce que je fais pour moi, ce que je fais pour vous, et ben, ça me sert à moi. Donc c'est pour ça aussi qu'il est important de porter nos troubles et nos difficultés ensemble en tant qu'Église, et qu'il ne faut pas avoir peur des fois simplement d'aller révéler ce que l'on a sur le cœur à quelqu'un. Parce que si on garde ça sur le cœur, c'est des briques qui s'accumulent et on ne sait plus porter les choses. Et donc, du coup, c'est vraiment important d'avoir des frères et sœurs et d'avoir une famille et d'avoir cette stabilité dans le Seigneur. Moi, je parle régulièrement avec certains d'entre vous parce qu'on ne se connaît pas tous profondément, mais on vit tous des difficultés. Et un jour, j'espère que d'autres auront l'occasion de témoigner et que ce sera pour vous un sujet de bénédiction et de reconnaissance. Merci Seigneur. C'est ma joie. Merci à tout le monde, en tout cas, d'être ici dimanche après dimanche. Alors on va lire Ésaïe 53, versets 3 et 5. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il s'est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, le trouble s'installe en nous, mais Jésus est venu justement porter ce trouble. Il a vécu ces situations, etc. Et il est capable aujourd'hui de porter nos troubles. Et on est capable de porter ces troubles entre ensemble, frères et sœurs. N'allez pas chercher de solution ailleurs que dans le Seigneur. Les psychologues, les sophrologues, les sorcières d'aujourd'hui, etc. Machin, tout. Non. Je dis pas ça. Voilà, je pense que ça peut être utile, mais attention aux... Je dirais, faut faire attention... Des fois, à tous ces courants qui sont parfois... Je pense qu'il faut faire attention. Donc, frères et sœurs, on a besoin d'être affermis et d'être encouragés. Cela dans notre foyer, dans notre église, quand on reçoit, quand on est entre amis, etc. Et donc, c'est pour ça que les fréquentations sont aussi importantes dans notre vie. Parce qu'il faut s'entourer de gens qui connaissent Dieu, qui aiment Dieu, afin qu'on puisse justement vivre ensemble sous le regard de Dieu et avancer ensemble en tant que croyants. 1 Thessaloniciens 3, versets 2 et 3 nous dit que Timothée a été envoyé pour affermir et pour encourager dans la foi les personnes qui étaient ébranlées et en difficulté. La suite, elle dit que quand on manque de quelque chose, eh bien, il faut compléter ce qu'il manque à notre foi. Il ne faut pas se dire « on est nul, voilà, on a des troubles, etc. Bah, je ne suis pas capable, j'avancerai jamais dans la vie, je suis un mauvais chrétien, etc. » Tout ça, balayez-le de votre tête et allez chercher auprès du Seigneur le réconfort, complétez ce qui manque encore à votre foi afin de progresser toujours plus dans la sainteté et d'avancer grâce à Dieu. Donc, que faut-il faire quand nous sommes troublés? Eh bien, ce que j'encourage chacun à faire face aux troubles, c'est à garder l'espoir. Même dans le trouble, continuez à chercher le Seigneur, ne vous éloignez pas de lui, méditez sa parole, continuez de chercher la face de Dieu, partagez votre désarroi à un frère, à une sœur, à quelqu'un qui puisse vous écouter, qui puisse prier pour vous, et la solution n'est pas ailleurs qu'auprès du Seigneur. Je peux vous assurer qu'au travers de cette étude, ce passage, je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien mon cœur a été soulagé. Et c'est marrant comment le Seigneur complète aussi ce dont nous avons besoin compléter notre foi. Moi, quand je prépare des études comme ça, je suis toujours interloqué par l'apport du Seigneur spontané. C'est-à-dire qu'on fait des recherches de nous-mêmes, mais les chants, les échanges, les choses sur lesquelles on peut tomber viennent compléter encore l'étude qu'on est en train de faire. Et donc, la dernière fois, je me mets dans le lit avec mon épouse et on écoute une publication de Facebook, La Pensée du Jour. Je ne sais pas si vous connaissez sur Top Chrétien. Donc, c'est des petites pensées, c'est des petits enregistrements sonores. Et donc, ça partageait sur le verset d'Éphésiens 2:8 qui nous dit « Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Et ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. » Il n'est pas le résultat de vos forces et ainsi personne ne peut se vanter. Dieu nous a fait grâce et il nous offre cette grâce gratuitement. C'est un don. Il n'y a rien qu'on puisse faire qui puisse mériter la grâce de Dieu à part que de l'accepter. Et cela, ce n'est pas le résultat de nos propres œuvres, c'est vraiment Dieu qui nous l'a donné. Simplement acceptons la grâce que Dieu nous a faite, restons auprès de lui.